nzamba
nzambira samirana Nous sommes le samedi 21 août 2021. Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakaoué. C'est le moment du journal dont voici les titres. Le Burundi a été épargné par la pandémie de Covid-19 et le journaliste de Radio France Internationale qui dit le contraire est le plus grand ennemi du pays. C'est dans ces termes que le chef de l'État burundais s'est exprimé ce vendredi pour vilipender un journaliste burundais de la radio française qui n'a pas nommé. Un discours qui fait réagir les professionnels des médias. Pour Innocent Mohosi, le président de l'Observatoire de la presse au Burundi, le pouvoir cherche de faux coupables au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Et puis en Tanzanie, la délocalisation des réfugiés burundais du camp de Mtendeli vers celui de Nduta a été suspendue, une mesure saluée par les réfugiés qui souhaitent qu'elle soit définitive. Voilà pour les titres, vous êtes avec Valérie Moucho au micro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons ce journal par cette nouvelle brève. Un incendie s'est déclaré ce matin à la prison centrale de Gitega. Le feu est parti d'un court-circuit électrique selon des sources au sein de la prison de Gitega. Il y a eu quelques dégâts matériels selon un tweet du chargé de la communication du ministère de l'Intérieur. Le feu a été vite maîtrisé grâce à l'intervention de la police et de la protection civile selon des témoins. Le président de la République du Burundi s'en est pris ce vendredi à un journaliste burundais de Radio France Internationale au cours d'une veillée culturelle organisée par le gouvernement à l'endroit de la diaspora burundaise proche du pouvoir. Évariste Ndayishimiye a affirmé que ce journaliste ne veut que du mal au Burundi en disant que la pandémie de Covid-19 fait rage au Burundi. Le président de la République met en garde et nie également la présence de la Covid-19 au Burundi. Je vous prie d'écouter un extrait de son discours.
Il y a un Burundais qui se sent très mal parce que le Covid-19 n'est pas encore apparu au Burundi. Vous l'entendez souvent sur la RFI. Ils se sent très mal à l'aise jusqu'à se suicider car le Covid n'est pas encore arrivé au Burundi. Essayez vraiment de le conseiller. Dites-lui que les autres journalistes burundais se penchent plutôt sur des sujets du développement du pays et de la cohésion sociale. Dites-lui que les Burundais sont maintenant comme des blindés. Un Burundais qui se permet de dire que les hôpitaux sont saturés suite à l'augmentation des cas de Covid, c'est une honte. Il devrait y avoir un Burundais qui le conseille d'arrêter de mentir. C'est le seul journaliste burundais qui ne rêve que du mal pour le Burundi.
Les propos du président Ndayishimiye qui s'en prend à un journaliste burundais de RFI est une fuite en avant selon Innocent Mohosi. Le président de l'Observatoire de la presse burundaise indique que le chef de l'État et les autres autorités devraient s'activer dans la lutte contre la Covid-19 au lieu de chercher des boucs émissaires. Innocent Mohosi, il est le président de l'OPB.
Ça ne sert à rien de se déchaîner contre un journaliste des RFI qui n'a pas été nommé parce qu'il donne les faits que tout le monde connaît, que tout ce qu'ils veulent savoir, ce qui se passe en matière de Covid, le connaissent. Le Burundi ne peut pas prétendre ne pas être sous le feu de la pandémie qui touche tous les pays du monde. Des Burundais meurent tous les jours. On est allé jusqu'à ce qu'un président de la République soit emporté par le Covid, même s'ils ne l'ont pas présenté comme tel. La Tanzanie à côté, qui avait la même politique, de nier les réalités du Covid. Combien de ministres africains sont déjà morts de suite du Covid? Combien de députés et non africains aussi? Les citoyens ordinaires sont emportés régulièrement par cette pandémie. Donc ce n'est pas la faute aux journalistes qui parlent de ce qui se passe, c'est la réalité qui est là, que doit affronter le gouvernement. C'est ce que dit le président de la République ressemble un peu trop à ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur quand il disait que les vaccins sont arrivés, ils sont là, celui qui veut, il peut aller se faire vacciner, mais les conséquences, l'État s'en lave les mains. Non, le gouvernement doit sensibiliser les gens, à prendre les mesures qui lui permettent de limiter ou d'éviter d'être affecté par le Covid, et deux, de se vacciner massivement parce que il y a un consensus mondial aujourd'hui pour dire le seul moyen d'arriver à ce que les sociétés se redeviennent à un rythme normal, c'est de vacciner le maximum de gens. Alors quand on commence déjà à s'attaquer à ceux qui parlent de la réalité du Covid, C'est que vraiment on est complètement à côté de ses responsabilités en tant que chef d'État, en tant que ministre, en tant que toutes les autres autorités du pays. Et maintenant, quant à la question des médias, mais les médias burundais sont victimes constamment du fait, les médias indépendants tout au moins, qu'ils disent ce qui se passe dans la société. Nous ne créons pas ces problèmes dans la société, nous parlons des problèmes qu'il y a pour qu'ils soient résolus. Il y a plus de 100 journalistes burundais qui sont à l'exil. Il y a plus de 7 journalistes qui ont été condamnés à perpétuité pour avoir dit ce qui se passe dans le pays. Le problème, c'est pas tellement, c'est absolument pas les journalistes, c'est plutôt ceux-là qui ne veulent pas que les choses qui sont là soient dites, soient présentées, pour qu'ils, eux, ceux qui se sont battus, ceux qui se sont hissés dans les positions de responsabilité, s'occupe de ces problèmes-là.
Toujours à propos de cette pandémie, les autorités sanitaires œuvrant dans le camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie sortent du silence. Ils révèlent que 4 patients ont été testés positifs à la COVID-19. Le nombre de patients placés en isolement à l'hôpital de l'ONG Médecins Sans Frontières ne cesse de grimper. Par ailleurs, un cas de décès a déjà été enregistré. Les réfugiés demandent aux autorités compétentes de sensibiliser sur le dépistage et le respect des mesures de prévention. Les détails avec Benny Axelakan.
Au moins 8 patients sont admis en soins intensifs en isolement dans le camp de Nduta. Cette situation a poussé les responsables sanitaires à annoncer officiellement la présence des cas de COVID-19 au sein du camp et aux environs. Parmi les 8 patients isolés, 4 sont testés positifs et sont sous assistance respiratoire dans un hôpital érigé à l'intérieur du camp. Selon les sources sur place, il s'agit de 3 réfugiés burundais et un tanzanien. Les réfugiés du camp de Nduta demandent l'urgence dans l'application de toutes les mesures de prévention jusqu'à la vaccination.
Ce vendredi après-midi, on a appris que 4 personnes de 8 qui sont hospitalisées au camp de Nduta sont testées positives de coronavirus. Et cela confirme l'inquiétude comme quoi le coronavirus se propage au camp de Nduta. Nous demandons aux autorités compétentes de faire un dépistage de masse. Deuxièmement, de distribuer des kits d'hygiène et puis de mettre en œuvre les mesures de barrière partout où se rencontrent beaucoup de personnes.
Pour plus d'éclaircissements sur les urgences à cette situation, la radio Inzamba, Agateka Kawe, n'a pas pu joindre par téléphone ni le responsable de l'hôpital de Médecins Sans Frontières, Nduta, ni le responsable du camp. Signalons qu'un décès a été enregistré parmi les patients sous assistance respiratoire.
Restons en Tanzanie pour parler de la suspension de l'opération de délocalisation des réfugiés burundais du camp de Mtendeli vers celui de Nduta. Annonce faite ce vendredi par les responsables du camp, il règne un sentiment mitigé au sein des réfugiés burundais qui se disent satisfaits de cette mesure, mais ils restent sur la soif de savoir si la mesure est définitive ou pas. Plus de détails avec Vanessa Moïteka.
L'annonce de suspension de délocalisation des réfugiés burundais du camp de Mutendeli vers le camp de Nduta a été faite ce vendredi dans l'avant-midi. Les premiers convois avaient eu lieu le 26 juillet 2021. Sentiment de satisfaction de certains réfugiés, d'autres craignent une probable reprise de cette activité dans l'avenir.
Le bureau de l'affaires au camp de Mutendeli a fait sortir un communiqué disant que les travaux de déménagement du camp de Mutendeli vers le camp de Nduta viennent d'être suspendus jusqu'à nouvel ordre. Après la lecture de ce communiqué, c'était inutile pour tous les réfugiés, mais les inquiétudes ne manquent pas car on ne sait pas pourquoi cette mesure a été suspendue et non plus on ne sait pas si le déménagement va reprendre et quand il va reprendre.
En début de ce mois, les réfugiés de la zone G pour qui leur bagage avait été déjà transporté vers Nduta ont été retournés à Mutindeli sans aucune signification aux propriétaires qui étaient en stand-by pour embarquer les véhicules qui devraient les conduire jusqu'à Nduta. Le communiqué a également annoncé la réhabilitation des maisons de Mutendeli qui ont été détruites par les organes habilités. Mais ce qui ne sera pas le cas pour ceux qui ont détruit leur maison dans l'espoir d'être de nouveau réinstallés en Nduta.
Ce communiqué a été accompagné par un autre disant que les maisons qui ont été détruites par leurs propriétaires qui attendaient d'être embarqués vers Nduta ne seront plus reconstruites, mais que celles détruites par les agents qui concernent leurs voisins pour les réfugiés chargés de cette activité vont bientôt être réhabilitées.
Cette annonce vient au moment où circulait une rumeur à Mutendeli depuis quelques jours de la suspension de ce déménagement vers le camp de Nduta.
Merci Vanessa Muiteka, Radio Inzamba, Agateka Kawe. Une courte pause et on se retrouve pour la suite de l'actualité burundaise.
Inzamba.
C'est le gouvernement qui doit endosser la responsabilité pour la mauvaise gestion de l'Office national des télécommunications, l'ONATEL étant une entreprise publique. C'est bien sûr l'État qui désigne les gestionnaires de celle-ci. C'est ce qu'explique Faustin Dikumana, expert en économie. Selon lui, l'État doit mener des enquêtes approfondies afin d'identifier l'origine de la faillite de l'ONATEL et éviter de responsabiliser les travailleurs.
C'est le leadership qui a la vision d'ensemble de l'entreprise. C'est le leadership qui doit assurer la cohésion des éléments du système de gestion de l'entreprise. Sinon, un travailleur et un employé du service de comptabilité, même s'il est performant, il n'est pas capable de contrôler les failles de la direction commerciale, par exemple, de la direction technique, du secteur technique, du service commercial ou pas. Donc c'est le leadership. C'est ce qui a la vision de l'entreprise dans l'ensemble. Or, quand une entreprise est publique, c'est l'État qui nomme tout le composant du leadership de cette entreprise. Vous voyez, et chaque entreprise publique a un ministère de tutelle. Ce ministère de tutelle doit toujours surveiller la gestion de l'entreprise et donner rapport au gouvernement à temps, pour que, à travers les conseils des ministres, le gouvernement soit informé de la situation des entreprises publiques et pouvoir prendre des mesures palliatives, des mesures correctives et à temps. Le gouvernement aussi avait des services techniques qui pouvaient l'aider à prendre des décisions. C'était comme des consultants. Il y a le SCEP, le service des entreprises publiques, qui pouvaient donner des orientations ou des conseils au gouvernement pour prendre des mesures à temps. Il y a l'inspection générale de l'État qui est là pour contrôler la gestion de la chose publique, y compris les entreprises publiques. Alors, toute cette panoplie d'intervenants, tout cet ensemble d'intervenants qui n'ont pas pu prendre les mesures à temps, ils doivent en assumer la responsabilité. Et j'imagine qu'un plan de redressement doit être pris. C'est le gouvernement qui doit prendre ça, qui doit concevoir un plan de sauvetage sur cette entreprise en détresse.
Cette analyse de Faustin Dikumana survient après la récente sortie médiatique du Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni. Il avait affirmé ce jeudi que des travailleurs de l'ONATEL qui réclament 4 mois d'arriérés de salaire ne seront pas régularisés par la société, car selon lui, ils sont à l'origine de la faillite de l'ONATEL. On revient sur d'autres propos tenus par le Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni sur les salaires du personnel de l'ONATEL. Ces propos violent le code du travail du Burundi, c'est ce qu'indique Maître Janvier Bigirimana, qui est avocat. Pour lui, les arriérés des employeurs devraient être payés même si la santé financière de cette société reste fragile. Écoutons Maître Janvier Bigirimana.
La loi prévoit ce qu'on appelle un super privilège de travailleurs, c'est-à-dire que les salaires qui sont dus aux travailleurs doivent être acquittés de façon prioritaire, raison pour laquelle aujourd'hui les arriérés des travailleurs elle devrait être acquittée quelle que soit la situation de l'ONATEL, parce que même si la santé financière de cette entreprise publique est fragile, il faut rappeler que les quelques résultats que cette entreprise a pu encaisser ont été le résultat de la sueur des efforts de tous les travailleurs. Autre chose, on ne peut pas imputer la défaillance économique actuelle de l'ONATEL à tous les travailleurs sans pouvoir établir la responsabilité individuelle au niveau des travailleurs dans cette entreprise publique parce que la globalisation risque d'être erronée. Nous pensons qu'il y a un comité de direction, il y a un directeur général et d'autres personnalités qui sont impliquées dans la gouvernance de cette entreprise. On ne pourrait pas penser en aucun moment que tous les travailleurs ont été impliqués dans la gestion au haut niveau de cette entreprise. C'est-à-dire que cette responsabilité elle doit être établie, elle doit être individuelle et ce n'est pas une faute qui doit être imputable à tous les travailleurs. Raison pour laquelle son traitement, cette globalisation devrait cesser et pouvoir pourvoir à toutes les réclamations qui ont été formulées par les employés de l'ONATEL. Ce sont des réclamations qui sont fondées, qui sont conformes à la loi, notamment en ce qui concerne les salaires qui sont la contrepartie d'un travail qui a été fourni.
Signalons que le Premier ministre Alain-Guillaume Bougnoni avait fait savoir à ce sujet que les employés de la société ONATEL ne devraient rien espérer de la part du gouvernement au sujet des arriérés de salaire de 4 mois et qu'en cas de grève, des mesures seraient prises à l'encontre de ces employés. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, nous parlons du mode d'élection des membres du conseil collinaire des notables. À la présentation, Émile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idouya Onyagihougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Après la loi relative à la réinstitution du Conseil des notables de la colline, le président de la République a récemment signé un décret portant mode d'élection du Conseil des notables des collines. Mais certains Burundais estiment que ce nouvel organe va défendre les intérêts du parti au pouvoir, CNDD-FDD, au détriment des intérêts de la population. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 21 août 2021, nous allons revenir sur ce décret avec notre invité, le Mushinga Nahe Emmanuel Ngengurutse. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Ce sont des habitants de la colline ou du quartier qui ont l'âge de voter qui élisent les 15 membres du conseil des notables, comme le stipule le décret présidentiel du 29 juillet 2021. Le Mushinga Nahe Emmanuel Ngengurutse se dit préoccupé par la mise en place de cet organe qui semble remplacer l'institution des Bashinga Nahe.
L'institution des Bashinga Nahe, spécialement le conseil des notables, était aujourd'hui considérée comme neutre, elle inspirait confiance aux Burundais. Les Bashingana utilisent la vérité avec l'intention d'assainir la justice et la cohabitation des Burundais. Ces changements qu'apporte le gouvernement devraient montrer clairement la problématique qu'il vient résoudre. Les réponses se trouvent-ils dans la révision de l'institution des Bashingana? Qu'est-ce que les Burundais peuvent attendre de cette nouvelle loi? Les Bashingana auraient été au moins consultés pour contribuer dans ce projet. Qu'en est-il de la population burundaise?
L'article 3 de ce décret présidentiel précise que les candidats doivent être âgés d'au moins 35 ans et de nationalité burundaise. Ils doivent avoir le sens de la vérité et de la justice, le sens de neutralité et d'impartialité, le sens du bien communautaire et d'abandon du gain personnel. Le Mushinga Nahe Emmanuel Ngengurutse se demande pourquoi les représentants des partis politiques ne sont pas exclus.
Le conseil des notables de la colline est placé au centre du Burundi en ce qui est de la justice et la bonne cohabitation, surtout à l'intérieur du pays. Si le gouvernement s'ingère dans l'organisation, cela vise la politisation du conseil. Sa politique de discrimination déjà instaurée dans la société burundaise, c'est ce que moi je crois. Se basant sur les profils de ceux qui vont se présenter dans ces élections, ils n'interdisent même pas ceux qui sont dans les organes dirigeants des partis politiques à se représenter. Ce sera une occasion d'intégrer les CNDD-FDD dans la continuité de la parodie judiciaire. C'est ma crainte. Au départ, le gouvernement avait annoncé sa volonté de relever le conseil des notables de la colline. Est-ce que les élus seront considérés comme les fonctionnaires de l'État? Si c'est le cas, n'est-ce pas qu'ils seront dictés les décisions à prendre comme on le voit dans la magistrature?
Le Mushinga Nahe Emmanuel Ngengurutse demande au gouvernement de ne pas se précipiter.
Nous conseillons au gouvernement d'y aller doucement et revoir minutieusement cette loi qui ne colle pas avec les valeurs des Burundais en matière de justice et de société. Ils ne veulent que muter les divisions qui sont dans les sphères politiques du Burundi, dans les collines. Le gouvernement devrait se concerter avec le conseil des Bashinga Nahe et les élus dans les collines pour bien aider dans la relance de ces valeurs anciennes des Burundais qui sont à l'origine de l'unité des Burundais. Même l'accord d'Arusha avait prévu la réhabilitation de l'institution des Bashinga Nahe sans toutefois être au service de l'État. Pour espérer une justice, il faut qu'il y ait une indépendance.
Le conseil des notables de la colline a une mission générale de conciliation des partis en litige. Ces notables n'ont pas de salaire, mais bénéficient d'un encouragement selon la loi du 23 janvier. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 21 août 2021. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et pour terminer ce journal, voici la revue de la presse hebdomadaire avec Blaise Nijimbele.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chez l'auditrice et auditeur de la radio Inzamba Gatega Kawe à cette revue de presse que nous commençons par la page santé. La mairie de Bujumbura s'inquiète de la présence des cas positifs au COVID-19, écrit le journal Iwacu. Lors de la rencontre du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire avec le gouverneur de province, Jimmy Atungimana, le maire de la ville de Bujumbura, n'a pas caché ses émotions en cachant que ces derniers jours, le coronavirus fait rage et emporte beaucoup de vies humaines en mairie de Bujumbura. Il interpelle la population urbaine à respecter les mesures barrières. Des propos immédiatement nuancés par le ministre Djemveni Lakobucha, président du comité de riposte. Il a précisé, je cite, « Il n'y a pas de mort à cause du coronavirus au Burundi. Les malades reçoivent des médicaments et guérissent. » Fin de citation. Toujours dans le domaine de la santé, l'épidémie s'aggrave, le gouvernement minimise. Titre le journal de la Radio France Internationale, RFI. Dans une activité d'inauguration d'un centre de dépistage du COVID-19 à l'aéroport de Bujumbura, sur 12 personnes présentes sur le lieu, dont le président de la République, une seule femme portait un masque. Pourtant, l'exécutif reconnaît qu'il y a un recrudescence de la pandémie. Il a déclaré que depuis le 22 juillet de cette année, 156 cas en moyenne sont enregistrés chaque jour, contre 20 cas les jours d'avant. Un tableau tout autre dépeint par les professionnels de santé montre que 13 personnes sont mortes en 10 jours dans un hôpital de Bujumbura, même si le bilan officiel reste à 10 morts depuis l'apparition du COVID-19 sur le sol burundais. En ce qui concerne les droits de l'homme, SOS Média écrit sur la réponse du gouvernement aux organisations non gouvernementales qui dénoncent les violations des droits humains. La réponse est celle du Premier ministre Guillaume Mbuyoni. Il parle d'une extrapolation de la situation des droits de l'homme au Burundi. Il l'a dit ce jeudi après que 43 organisations nationales, régionales et internationales ont écrit au Conseil onusien des droits de l'homme de garder un œil sur le Burundi car la situation des droits de l'homme se dégrade de jour en jour. Parlons du numérique pour clore cette revue. Des réussites made in Burundi, des frères Fikiri au service du numérique, écrit le journal Jeune Afrique. Jean-David Fikiri et son frère Isaac Newton Fikiri ont moins de 30 ans. Jean-David a 29 ans et son cadet 22 ans. Les deux frères se sont chacun fait un prénom dans ce que Isaac Newton appelle l'écosystème numérique de Bujumbura qu'ils ont très largement contribué à développer. Jean-David Fikiri a démarré sa carrière en 2015 en tant que webmaster dans un média à ligne locale. Il fournit par ailleurs des solutions informatiques à des entreprises et à des associations au Burundi. En 2019, il a créé la start-up Sokoni pour faciliter l'accès des gens aux services en ligne des entreprises et des administrations. Son frère Isaac Newton Fikiri construit lui aussi le présent et le futur numérique au Burundi. Ingénieur en génie civil, il est blogueur. Il s'intéresse à l'économie de son pays et découvre les difficultés d'être entrepreneur. Il sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat et à les accompagner en mutualisant les expertises de chacun. Voilà, c'est ici que se termine cette revue. Blaise Nijimbele qui voulait présenter vous souhaite un agréable week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
C'est la fin de cette édition. Merci à toutes les rédactions de la radio Inzamba Agathe Kakawe pour la production de ce journal. Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Au revoir et très bon week-end.